Canalem, on aime l'été.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 25 juillet. Emmanuel Robitaille avec vous et...
François Baruel.
Qui vient de revenir de vacances.
Ben oui. Emmanuel, bienvenue à Aime l'été d'abord.
Ben, bienvenue à toi, re-bienvenue, bon retour.
Emmanuel, tu nous parles beau, de toutes sortes.
Effectivement, et aujourd'hui à l'émission, le Centre d'intégration à la vie active intègre, lui, le fauteuil roulant à la course à obstacles avec le défi Mudwheel.
Avec le soleil qui brille de plein feu, on apprend des trucs et astuces pour protéger notre peau cet été, mais pas seulement.
Pas seulement la peau?
Ben oui.
C'est quand même intriguant. Une petite séance de clarification et d'introduction dans le monde vegan nous attend.
Les journées mondiales et internationales célébrées cette semaine.
Et de la musique, plus précisément de la musique estivale, avec Daniel Lachance. Bienvenue à Aime l'été.
J'ai failli me tourner le dos. Naïf, le vrai devenu faux. À demi éveillé, à demi éveillé. Penser que tout était ma faute. Bravé à devenir une autre. À demi éveillé, à demi éveillé. L'orage est passé, la poussière est retombée.
Alex, c'était Alex Gaudreau. Et la chanson, c'était Placebo. À ce propos, justement, Emmanuel, tu vas nous parler de, des nouveautés médicales dans le domaine des traitements.
Effectivement, parce que le placebo, ça a l'air que ça fonctionne. En fait, ça fonctionne souvent, mais il y a d'autres traitements qu'on utilise et qui ont des substances réelles et qui fonctionnent. Et je me suis promenée un petit peu à travers le monde pour dénicher, je dirais, des avancées scientifiques sur les traitements actuellement qui voient le jour. Et vous allez voir qu'il y en a encore une fois pour tout le monde, à commencer par une bactérie génétiquement conçue pour traiter la constipation.
Oula.
Ça commence fort.
Ça commence très fort.
On rentre dans le vif du sujet. Mais sincèrement, le nombre de gens qui ont des difficultés sur le plan gastro-intestinal, dont la constipation chronique, il y en a une tonne. Si c'est votre cas à la maison, sachez qu'il y a des choses qui sont en train d'être développées pour vous aider, pour nous aider. Et cette bactérie-là agit tout en ne menaçant pas le micro-environnement du ventre, ce qui est très important. Les gens qui vivent avec des problèmes de constipation chronique sont reconnus pour avoir un débalancement sur le plan des bactéries présentes dans l'intestin. Et c'est pourquoi les pré- et les probiotiques sont autant indiqués. Quelques médicaments se sont démontrés efficaces, mais la plupart du temps, on contre les problèmes de ce type-là avec des diètes, de l'eau, des fibres. Et les probiotiques génériques, c'est pas toujours efficace pour tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui a la même constitution bactériologique à l'intérieur d'eux.
Chacun a son microbiote.
Un micro, exactement. Êtes-vous médecin, vous?
Non.
Jamais. Jamais, docteur Baruel. Effectivement, on parle de microbiote, effectivement. Ensuite, la bactérie, oui, la bactérie dont je parle ici, qui est génétiquement conçue pour traiter la constipation, elle est composée d'un produit chimique appelé tryptamine, qui aide la nourriture à passer dans l'intestin et donc qui contribue au traitement de la constipation.
C'est un acide aminé.
Exactement. Et on retrouve aussi la tryptamine dans beaucoup de drogues psychotropes que les chamans utilisent d'ailleurs dans la DMT aussi, qui est sécrétée par la glande pinéale. Mais ça, c'est un tout autre sujet. Alors, d'ailleurs, la tryptamine, effectivement, ça s'apparente à la sérotonine qui a le même effet. Plus précisément, avec des tests qui ont été effectués sur des souris, on s'est rendu compte que la bactérie, elle active un récepteur dans le ventre qui, lui, crée une plus grande sécrétion de fluide dans le côlon. Plus de fluide égale voyage plus rapide de la nourriture dans l'intestin. On se comprend. Fait intéressant, la tryptamine se dissout rapidement et donc elle ne reste pas dans le système sanguin, ce qui évite des effets collatéraux en dehors du circuit gastro-intestinal comparativement à certains médicaments vendus en pharmacie qui, eux, sont reconnus pour avoir des impacts ailleurs, comme sur le cœur, par exemple. Donc, les possibles transferts des bénéfices de cette découverte-là sur des maladies, c'est des maladies comme le syndrome du côlon irritable.
Mm-hmm.
Donc, c'est pas rien. Alors, c'est cette bactérie-là qu'on est en train d'étudier et on souhaite que ce soit prometteur, du moins actuellement, ça promet.
En fait, il y a aussi une bactérie qui s'appelle lactobacille et qui, elle, sécrète de la sérotonine. Et cette sérotonine qui entraîne un péristaltisme, c'est-à-dire en fait les contractions du côlon qui permettent le transit et qui facilitent le transit.
Donc, il aide notre intestin à bouger naturellement, on va se le dire comme
tout
ça.
Tout à fait, c'est exactement ça.
Voilà.
C'est exactement ça.
Ben effectivement.
Ouais.
On s'en va vers les gens qui sont atteints d'obésité et de diabète de type 2. En fait, il y a un nouveau médicament qui pourrait renverser l'obésité et le diabète de type 2. Cette pilule-là enveloppe le petit intestin ou l'intestin grêle et empêche l'absorption de sucre. Un procédé appelé LUCY ou LUCY, selon. Ça dépend si tu te sens un peu bilingue ou pas. Aujourd'hui, c'est selon. En laboratoire, les tests démontrent sur les souris actuellement que cette pilule-là diminue le contact du sucre avec le petit intestin et qu'elle diminue également le niveau de glucose sanguin après le repas. On parle d'une réduction de 47% du glucose sanguin une heure après l'absorption de LUCY. C'est énorme.
C'est énorme.
Donc, LUCY, elle a vu ses effets perdurer pendant 3 heures consécutives après son absorption. L'utilisation de cette pilule-là, elle est ambitieuse. Elle veut être une alternative aux chirurgies et aux méthodes radicales de perte de poids. Et en ce qui a trait au diabète, la LUCY, on va l'appeler la LUCY, elle agit non seulement sur le taux de glucose sanguin et l'absorption de sucre, mais indirectement également en jouant sur l'obésité, parce que l'obésité augmente de 80 à 85 % les risques de souffrir de diabète de type 2, ben, on joue sur les deux plans.
C'est-à-dire qu'en fait, en diminuant l'absorption de sucre, on diminue le poids.
Effectivement.
Et on diminue le diabète, on diminue le sucre dans le sang.
Bingo, une pierre
d'accord.
deux coups.
OK.
Quand même. Un nouveau matériau, et ça, c'est fascinant. C'est tout fascinant, mais un nouveau matériau découvert pour aider les personnes avec des lésions médulaires. Qu'est-ce que j'entends par lésions médulaires? Ce sont des dommages à la colonne vertébrale.
À l'os. D'accord.
C'est un matériau qui est spongieux, donc une petite éponge, qui peut prendre n'importe quelle grosseur et n'importe quelle forme et donc aider à soutenir la colonne vertébrale. On peut l'utiliser pour remplacer une vertèbre endommagée. Habituellement, pour faire ça, on pratique une vertébrectomie pour enlever une vertèbre endommagée par une tumeur, par exemple, ou encore pour soulager des maux de dos chroniques. Et on la remplace, habituellement, par un implant en titanium, ce qui est assez invasif et coûteux, on va se le dire. L'éponge en soi, c'est un matériau qui peut être déshydraté et une fois la greffe implantée, elle absorbe une éponge, je suis présente dans ma grammaire, elle absorbe les fluides qui sont présents dans le milieu naturel du corps et prend la forme qui est nécessaire pour remplir le trou. Comme c'est une éponge, on peut également injecter à l'intérieur du matériel des médicaments thérapeutiques pour qu'ils agissent local et qu'ils se dissoudent et se dissipent dans le corps et encore même des stabilisants. On n'est pas rendu aux essais cliniques encore, mais clairement, c'est prometteur, c'est moins invasif et c'est moins coûteux.
C'est d'autant plus prometteur que, à mon avis, ça doit pouvoir marcher puisque c'est déjà ce qu'on utilise lorsqu'on veut faire un comblement de sinus pour pouvoir poser des implants.
C'est vrai?
On utilise des éponges comme ça, qui sont des éponges en fait fabriquées d'os avec du collagène et de l'os, et aussi lorsqu'il s'agit d'un gros trou dans l'os, parce qu'il y a eu une infection au bout d'une racine, on remplit avec.
C'est vrai?
Oui.
Est-ce que tu penses qu'on a tardé à utiliser ça dans la colonne vertébrale parce que nécessairement c'est beaucoup plus
vulnérable? C'est
exactement.
Beaucoup plus dangereux.
Exactement.
Donc en effet, on le teste depuis 30 ans dans la bouche. Donc maintenant, en effet, c'est une très bonne idée de faire ça. Pourquoi pas? Est-ce que ça marche?
Ça s'en vient.
On a fait ça chez la souris?
Effectivement.
Et chez la souris, ça fonctionne?
À date. Et finalement, je vous parle de compresses adhésives comme alternative aux points de suture. Et ça, je trouve que c'est très le fun parce que des points de suture, c'est pas agréable. Ça s'appelle les dermaclips. As-tu entendu parler de ça?
Oui.
Les dermaclips?
Oui.
Moi, j'ai vu comment ça fonctionne et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire.
Ben oui.
Ce sont de petites bandelettes
non
intrusives qui vont sur la peau et non qui la perforent, première bonne nouvelle, et que l'on met de chaque côté de la plaie à cicatriser. Ça me fait penser aux bandelettes adhésives qu'on se met sur le nez pour les points noirs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça à la maison. Tu sais, les bandelettes blanches là, que nous, les femmes, même les hommes, on peut se mettre sur le nez. Là. Mais c'est vrai que ça ressemble vraiment à ça. On met ça et il y a comme des genres de tie wrap. C'est littéralement une espèce de tie wrap en plastique que sur le dessus, on tire de chaque côté. Ça rapproche les deux bandelettes pour finalement amener la peau à se recoller. C'est de grandeur variable. Ça va de la petite coupure à la plaie laissée par une césarienne.
Il faut pour ça... Auparavant, il y avait les stéri-strips qui tenaient très bien. Les stéri-strips, c'était des petites bandelettes, mais il fallait rapprocher les bords de la plaie auparavant. C'était des toutes petites bandelettes d'à peu près 2-3 mm de large sur 10 cm de long.
Mais il y avait une étape à faire
avant
pour
que
ça fonctionne.
Il fallait tenir les parois.
Ce
système-là permet justement de rapprocher exactement les berges de la plaie comme on le veut.
Mais
c'est vraiment super.
Mais c'est merveilleux et ça dépasse même la colle chirurgicale. C'est en train de la dépasser.
Oui.
Vraiment, c'est sans douleur, c'est propre, c'est beau, c'est rapide et ça se remplace de 7 à 10 jours.
Bien sûr.
Donc, c'est pas prenant dans l'horaire. Actuellement, c'est considéré comme le futur du traitement des plaies.
Tout à fait. Oui, c'est vrai. La colle chirurgicale avait ce détail un peu embêtant, c'est que ça lâchait. Et si c'était trop humide, ça ne tenait pas bien.
Ben, on n'arrête pas le progrès.
Mais oui. All is fair in love and war, but all I do is love you more. Our love is crazy, unhealthy, but I can't keep from you, baby. So you say, why is
this love set me on fire. How I wish you'd be the victim so you'd see just how I'm feeling.
You better know, know, know that I have conditions. I make the rules and make the decisions. And I want nothing less than what I deserve.
So you better run, run, run before I decide that you are mine. Two souls will collide. You better run, 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 nowhere to run but to me.
Somehow I don't get the picture. Don't know why you are the winner. Our love is not what we wanted, but baby, you finished just what you started. So you said it, why even bother? Set this love, set me on fire. How I wish you knew me better so you'd see that I'm the trendsetter.
You better know.
Nous venons d'entendre Céleste Buckingham qui chantait « Run, run, run ». Ça tombe bien d'ailleurs à ce propos, car nous avons avec nous Marine Gaillard, directrice adjointe du Centre d'intégration à la vie active, le CIVA, à Montréal.
Bonjour.
Bonjour. Rappelez-nous la mission du CIVA.
Oui, donc le CIVA, donc on est un organisme à but non lucratif. On a des activités physiques et culturelles pour les personnes qui ont une déficience motrice.
Et le défi MudWheels, c'est quoi?
Alors, c'est un défi qu'on a parti, c'est cette année la quatrième année de ce défi-là. Donc, c'est une participation à une course à obstacles. Donc, les fameuses courses populaires là, qu'on voit où on court dans la boue beaucoup, en montagne, en forêt, où il y a des obstacles à franchir. Donc, c'est une équipe, cette année, il va y avoir donc deux personnes en fauteuil. C'est toujours des équipes de deux à trois personnes en fauteuil avec entre 15 et 20 bénévoles. Qui font la course, les bénévoles sont là pour aider donc les personnes en fauteuil à compléter leur course.
C'est un parcours qui est compliqué?
Oui.
Parce que là, on parle de bouette, on parle de gens à mobilité réduite, on dirait que c'est dans mon cerveau.
C'est bizarre, en fait. Ça ne doit pas être simple.
Non, c'est ça, en fait. Donc, bon, il y a un peu d'organisation, bien évidemment. On part avec des fauteuils roulants qui sont munis de ce qu'on appelle une free wheel en avant, donc qui sont adaptés pour du plein air, un petit peu de tout terrain. Il y a des poignées sur ces fauteuils-là aussi pour que les bénévoles puissent plus facilement les prendre, les pousser, les tirer. Puis en avant, il y a des harnais pour que les fauteuils puissent être tirés aussi dans les montées.
Oui.
Donc voilà, fait que les bénévoles sont là aussi et se relaient pour donc tirer, pousser le fauteuil et aider la personne à passer les obstacles.
Oui, mais la personne, elle fait des efforts elle-même?
Oui, bah oui, bien sûr, elle passe tous les obstacles, donc aider des bénévoles, mais c'est tout un défi, tout un défi en soi.
Oui.
C'est vraiment un travail d'équipe.
Oui, c'est pour ça qu'ils sont 6 ou 4 à 6 en fait.
Oui, exactement.
Et qu'est-ce que c'est le sujet Splash?
La Super Splash, en fait, c'est la course à laquelle on va participer donc samedi, qui est la course qu'on fait donc cette année. C'est une course de 5 km qui va se passer à Sainte-Béatrix, avec plein d'obstacles, des obstacles dans l'eau aussi. Donc,
c'est ce samedi, le 28 juillet, à Sainte-Béatrix.
Oui.
Ça commence à quelle heure et est-ce que les inscriptions sont encore ouvertes?
Alors, pour la course régulière, oui, hein, il y a, je pense, 2000 participants à peu près à cette course-là.
Hey, quelque
chose dans ce genre-là.
Et nous, on est impressionnés.
C'est ça. Et nous, on participe, donc on va être une petite équipe d'une quinzaine de personnes à peu près. Donc voilà. Nous, pour notre défi, à nous, les inscriptions sont terminées parce que, bien évidemment, bon, ça prend un peu de logistique. Donc, on fait les inscriptions en amont. Il y a quand même une sélection qui se fait au niveau des bénévoles pour s'assurer que c'est équilibré, qu'on ait des personnes qui... Il y en a qui n'ont jamais fait de course, il y en a qui en ont déjà fait, avec nous, sans nous.
Oui,
donc,
oui.
Pour qu'on ait une belle diversité aussi.
Et quelle est la distance de l'épreuve?
C'est 5 km.
Ah, c'est 5 km?
Oui, tout à fait. On estime habituellement, donc on a toujours fait des courses entre 5 et 10 km. C'est jamais des distances exactes hein, dans les courses à obstacles. La course la plus rapide, donc dans les 4 dernières années qu'on a fait, on a mis 4 heures. La plus longue a été 8 heures.
8
donc,
heures?
Oui, donc on part à 11 heures le matin, nous, tout le temps. Et voilà, et on finit quand on finit, quand on passe la ligne d'arrivée.
Et comment se constituent les équipes?
Ben en fait, donc c'est ça. Là, cette année, on a deux participantes, donc Maude et José, donc qui vont être chacune dans un fauteuil avec les bénévoles. Les bénévoles, c'est des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui sont intéressés à participer au projet. Il y en a qui font des courses à obstacles pour leur plaisir personnel, d'autres qui en ont jamais fait. Donc c'est assez assez mélangé. Souvent c'est aussi par le bouche à oreille. Beaucoup on essaye de quand même bien connaître nos bénévoles avant. Nous on connaît bien aussi les participants pour faire des bons jumelages puis s'assurer qu'on ait une belle équipe.
Ça doit être épuisant ça en fait. Ça doit être. Mais franchement ça doit être épuisant.
Mon âme non sportive à la place.
Je me mets à la place des bénévoles. Mais ça doit être quelque chose pendant 5 km.
Mais un des objectifs, par contre, du projet, c'est, oui, d'amener ces jeunes-là à se dépasser, c'est d'amener ces jeunes-là à être fiers d'eux, d'essayer de nouvelles choses, aussi de connaître d'autres personnes, parce que j'imagine que quand on termine une journée comme ça à Gagne...
En fait, c'est un trip aussi bien donc pour les deux participantes là qu'on va avoir cette fois-ci que pour les bénévoles. Hein. L'ambiance est vraiment très très intéressante, très euphorisante, on va dire.
Mais effectivement.
Et puis il y a tout un lien hein, qui se crée, un lien de confiance entre les bénévoles et les participants. C'est vraiment de vivre une expérience ensemble. Et tout le monde en retire des aspects positifs, une fierté, un sentiment d'accomplissement.
Ouais. Mais
allez-y.
Mais qu'est-ce qu'on gagne à la fin?
De l'honneur et de la dignité.
Exactement.
Non, mais au-delà...
Tout le monde a sa médaille, comme n'importe quel participant à la course. Donc, on a tous notre médaille.
Mais au-delà, justement, de tous les aspects psychologiques, émotionnels, de cette fierté-là que les participants rapportent à la maison... Il y a un des objectifs du projet qui est également de faire une levée de fonds pour financer vos activités.
Oui, tout à fait. En fait, on se sert aussi de ce moyen-là. Ce défi-là, cet événement-là, a été créé aussi donc pour... Pour les personnes au départ, aussi pour faire de la promotion, pour montrer aux gens, là, toutes les personnes qui participent à la course, il y a un petit peu un côté inspirationnel, là, montrer à tous ces gens-là que, la personne a un handicap, mais une personne qui a un handicap peut faire plein de choses, les mêmes choses que tout le monde.
On brise les mythes, les préjugés.
Exactement, puis que l'entraide, c'est quelque chose de positif pour tout le monde, puis que si on s'aidait tous dans la vie, on pourrait aller plus loin tous ensemble. Et on se sert aussi de ça, bien évidemment. En fait, les participants font une levée de fonds, c'est pas obligatoire, c'est fortement recommandé. Nous, ça nous aide à financer nos activités.
Et vous avez besoin de combien? Vous avez besoin de combien?
Notre objectif, là, à l'équipe, était de ramasser 1 000 $ cette année. On est rendu un petit peu plus de 800. Donc, on a bon espoir qu'on va se rendre à notre objectif
que vous allez
pour
même
l'année.
Les dépasser dans ce cas-là.
Comment?
Vous allez même les dépasser si vous êtes déjà à 800.
Oui, c'est ça, on espère.
J'imagine qu'il y a une façon de participer financièrement à vos activités tout au long de l'année sur votre site Internet, par exemple?
Oui, c'est ça. Toute notre plateforme de dons est sur notre site Internet, donc siva.qc.ca. Puis les gens peuvent faire un don soit pour l'organisme en général, soit vraiment pour ce défi-là directement.
Donc, on rappelle, c'est votre site Internet, hein? C'est siva.qc.ca.
.qc.ca. Tout à fait.
On peut faire des dons sur ce site-là?
Oui, c'est ça. Les dons, la plateforme de dons se trouve sur notre site Internet directement.
Très bien. Parfait.
Merci beaucoup, Marine Gaillard, directrice adjointe au Centre d'intégration à la vie active. On n'oublie pas le Super Splash le 28 juillet à Sainte-Béatrix, mais on ne vous oublie pas non plus 365 jours par année et on vous souhaite énormément de succès pour l'édition de cet été.
Merci, puis je vous inviterai à aller voir les photos et vidéos de la course dès la semaine prochaine sur notre page Facebook aussi.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Pouvons parler de, justement, un Français aveugle qui a traversé le désert du Sel en 7 jours. C'est aussi une très belle épreuve. Il était tout seul. En 7 jours.
Est-ce qu'on sait combien de temps ça prend habituellement, le temps moyen?
C'est en fait, il a parcouru 140 kilomètres.
Seigneur.
Et il était tout seul, avec un chariot derrière lui. Il arrivait à faire 20 kilomètres par jour. Il avait un GPS auditif, puisqu'il était aveugle. Et il était avec une équipe à distance, mais très loin derrière, pour le soutenir en cas de problème de santé. Mais il a réussi à faire ça, quand même.
Hey, c'est un homme de courage et de défi.
C'est vraiment très impressionnant.
C'est incroyable.
C'est quand même le plus grand désert salin du monde. Hein.
Je suis tellement pas bonne dans ces affaires-là. Mmh. Mais clairement, avec une difficulté de vision, avec aucune équipe
et son chariot derrière.
Et un défi physique aussi grand. C'est là qu'on voit.
C'est ça.
Et aussi avec le défi Mudwheel qui n'a absolument aucune limite sauf dans nos têtes.
Vous écoutez Aime l'été.
Emmanuel Robitaille en compagnie de François Baruel sur le canal M pour Aime l'été. Et à venir à l'émission, on parle de comment mieux protéger notre peau avec les conseils pro du docteur Baruel, mais pas juste notre peau. Et ça, il y a un suspense quand même là-dessus. Et on a une immersion également dans le monde vegan avec Sophie Lecomte.
Cheveux longs sur nos corps de seigle et nous joue du violon. Ouh, 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 ouh. Un rayon de soleil sur le sommeil de plomb. Suspendu au fleur de ton jardin, ma main
sur ton petit cul, cherche le chemin, un matin suspendu, fleur de ton jardin, ma main sur ton petit cul. Un matin suspendu, fleur de ton jardin, ma main sur ton petit cul. Qui cherche le chemin?
Qui cherche le chemin? Qui cherche
la,
le
la,
chemin?
La 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 la.
Qui cherche le chemin? Qui cherche
la,
le
la,
chemin?
La 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 la.
Qui cherche
la,
le chemin?
La, 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 la.
Qui cherche le chemin?
Par la fenêtre ouverte, l'air que nous respirons, ces petites poussières. Soleil sur ton si beau visage, aux abeilles se mêle la voix de Bob Dylan.
Knock, knock, knocking on a heaven's door.
Un matin suspendu, fleur de ton jardin, ma main sur ton petit cul, cherche le chemin. Un matin suspendu, fleur de ton jardin, ma main sur ton petit cul.
C'était William Baldé avec la chanson « Rayon de soleil ». William Baldé qui a assuré déjà les premières parties du très populaire actuellement Christophe Maé qu'on connaît pour la chanson « Il est où le bonheur? Il est où? » Là, il a comme émergé aussi cette année ici au Québec, mais au début des années 2000, il existait déjà et William Baldé était un bras droit en spectacle. Et « Rayon de soleil », M. Baruel, c'est pas pour rien, c'est parce que
ben non, ça
tu
bien.
Nous aides à nous en protéger.
Ben voilà, c'est sûr. En fait, c'est vrai que pendant l'hiver, on est bien protégé, on est emmitouflé hein, dans nos vêtements, on a la tuque, on a tout ce qu'il faut. Et le problème, c'est que l'été, ben, on a tendance à plutôt se déshabiller. Eh oui, presque un peu trop. Parce que les risques, c'est quoi?
Oui, mais il fait chaud.
Et il fait chaud, bien sûr. Et oui, c'est vrai, il fait chaud, mais...
On n'est pas pour garder notre tuque puis notre foulard. Enfin, non, moi, ça... Surtout pas dans la canicule des deux dernières semaines.
C'est vrai que les agents les agressifs sont quand même assez nombreux pour la peau. Hein. On va commencer par la peau d'ailleurs. D'abord, c'est les UV. Les UV, bien sûr, naturels ou pas, hein, on le sait. C'est-à-dire que les salles de bronzage,
oh, mon Dieu,
ça,
oui.
Il faut surtout éviter ça. Et en fait, les UV sont agressifs, ils sont dévastateurs. Vraiment dévastateurs pour la peau. Ils provoquent une inflammation de la peau, ce qui n'est jamais très bon. Et il la brûle, finalement. Mais il ne faut jamais, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut jamais s'exposer entre 11h et 4 heures l'après-midi. Jamais, vraiment jamais. Ce sont les heures les pires et qui provoquent des brûlures. Les risques à long terme des brûlures, c'est les brûlures à répétition, on sait ce que c'est, ce sont les cancers de la peau. Mmh. Et en fait, la sommation des coups de soleil...
Donc l'accumulation d'en avoir à répétition.
C'est l'accumulation des coups de soleil qui est dangereuse pour la peau. Hein.
Mais moi, j'ai une question. Parce qu'on n'a pas tous la même pigmentation de la peau. La mélatonine n'est pas
moi,
la même.
Je te regarde, Emmanuel. Oui, en effet. Tu n'as pas la même pigmentation que moi.
Effectivement, je suis un petit peu plus bronzée. J'ai un peu plus... Mon tan est un petit peu plus foncé. Mais c'est vrai parce que, justement, elle est là, ma question, dans la mesure où... Est-ce que c'est tout le monde qui a le même risque en fonction de leur pigmentation?
Mais non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Les gens qui ont une peau qui est foncée auront moins
d'emblée.
De risques. Ben oui, bien sûr. Ils fabriquent de la mélatonine et de la mélanine et ils peuvent se protéger du soleil beaucoup plus facilement que les autres qui sont des blonds ou des roux.
Oui, effectivement.
Ben oui, évidemment. Et puis en plus, quand on se baigne dans la mer, par exemple, alors en lac, c'est un petit peu mieux, mais et l'eau salée sur une peau abîmée, c'est une agression supplémentaire qui provoque des lésions et des micro-lésions sur la peau.
OK, donc quand on a déjà un coup de soleil même rougi le moindrement et qu'on décide d'aller se baigner dans la mer, on ajoute
encore une agression sur cette peau-là.
OK, mais l'eau salée ne va pas rendre notre peau plus fragile au soleil, c'est le contraire.
Non, c'est le soleil, exactement.
Okay.
Voilà. Par contre, quand on se baigne dans un lac, c'est vrai que c'est un peu mieux. Mais le problème, c'est que quand on sort de l'eau, ça fait loupe, hein, on sait, et ça augmente
exactement. Les brûlures. Exactement, effectivement.
Donc, il y a aussi le parabène des crèmes qui n'est pas très bon. Donc,
le parabène n'est pas très bon dans n'importe quoi.
Dans n'importe quoi, exactement. Mais alors donc, dans les crèmes, il faut surveiller qu'il n'y en a vraiment pas, ni de bergamote qui provoque des taches. Bref. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il n'y a pas que le soleil. Il y a aussi, dans le sable, on trouve des mycoses, des virus et des bactéries en grande quantité. Et on ne se protège pas du sol, du sable, etc. Parce
qu'on
est pieds nus, en fait, la plupart du temps, bien sûr. On ne va pas mettre des chaussures de montagne. Il vaudrait mieux mettre des gougounes dans le sable. Parce que c'est vrai que lorsqu'il y a des brûlures sur le pied, on peut se réinfecter, s'infecter ce pied, et on se retrouve avec des bobos. Voilà.
Donc, ce que tu me dis, ou ce que tu nous dis, c'est quand on a un coup de soleil, ou quand notre peau devient fragilisée par une simple rougeur, qu'on aille dans la mer, ou qu'on aille dans les pieds dans le sable par la suite, c'est le même niveau. On ajoute
des risques. Exactement.
Noté.
Et attention, c'est pas parce que vous avez la peur d'avoir une infection sur les pieds qu'il faut utiliser le gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique, c'est celui qu'on trouve et qui est un gel qu'on trouve un peu partout, notamment dans les hôpitaux, bien sûr, mais qu'on vend aussi dans toutes les pharmacies.
Ah, le fameux Purel, qui est la compagnie.
Là, c'est ça.
Qui est la compagnie.
Voilà, alors il faut faire très attention parce que ça aussi, c'est un agressif pour la peau qui fait des micro-lésions. Qui change le microbiote de la peau, parce que la peau aussi un microbiote, ça fait partie du ça fait partie du microbiome, qui est l'ensemble de tous les germes étrangers au corps qu'on trouve soit dans l'intestin, soit sur les muqueuses, soit sur la peau, et dont il ne faut surtout pas se débarrasser. Et donc la peau devient fragile du fait de cette absence de microbiote.
Mais comment on peut se défendre de tout ça? Parce que là, on dirait que le danger est comme partout.
Eh bien, c'est tout simplement... mais c'est vrai, t'as raison.
Je deviens apeuré de mon environnement naturel de la Terre.
J'ose plus sortir de chez moi maintenant,
c'est ça.
Non, en fait, ce qu'il faut faire, c'est se protéger tout simplement en enduisant de crème. Ça dépend des gens, d'ailleurs, parce que les enfants sont plus fragiles. Donc, il faut les enduire de crème. Toutes les deux heures, il ne faut pas l'oublier. Il faut prendre la crème avec l'indice de protection maximum. Il faut même leur mettre des t-shirts. Ils peuvent se baigner avec des t-shirts. Il faut éviter le nombre d'enfants qu'on voit qui sont laissés au soleil tout nus. C'est très mignon, mais c'est vraiment dangereux pour leur peau. Donc il faut leur mettre des t-shirts, il faut leur mettre des parasols au-dessus d'eux. Ils sont trop fragiles. Et là, il ne faut pas oublier que la très grande majorité des brûlures solaires sont faites et on les a eues avant 17 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont tous les jeunes qu'on met nus sur la plage qui se retrouvent avec un capital de brûlures important.
Qui les mettent à risque au long cours.
Voilà, c'est exactement ça.
Mais moi j'ai une question là, personnelle, mais en même temps qui me chicote, François.
Vas-y.
On parle de se mettre de la crème absolument, de la crème maximale, tout ça, mais qu'est-ce qu'on en pense de ces crèmes-là qui, malheureusement, pour la plupart, sont très loin d'être naturels pour notre peau et qui eux-mêmes contiennent un danger qui, à mon sens, n'est pas nécessairement toujours mieux.
C'est pour ça que je préfère les t-shirts et les vêtements.
OK.
On peut s'exposer de temps en temps. On n'est pas obligé de porter un t-shirt en permanence. Mais il faut de temps en temps se rhabiller et mettre une chemise, un t-shirt.
Choisir l'ombre.
Choisir l'ombre le plus tôt. Et puis il faut bouger, il faut pas rester allongé comme une côtelette de porc sur la plage, à rissoler d'un côté et de l'autre. Il faut bouger parce que ça, au moins, ça varie les expositions.
Mm-hmm. Hein? Je t'entends.
Ben oui.
Je t'entends. Et pour les yeux? Alors, peut-tu se faire quelque chose? Parce que là, on a les pieds, la peau.
Exactement. Mais pour les yeux, c'est assez fréquent. C'est l'uvéite qui est due au... C'est un coup de soleil, en fait, de la cornée. Et à ce moment-là, on a l'impression vraiment d'avoir une espèce de rocher dans l'œil. C'est impossible. Et en plus, on est aveuglé. Dès qu'on ouvre les yeux, c'est insupportable. Donc là, il faut mettre des lunettes de soleil pour protéger ses yeux. C'est indispensable.
Mais ça guérit, ça.
Ça guérit, bien sûr.
Ouais,
on peut
s'en remettre de cette affaire-là.
Par contre, si on est dans un endroit qui est extrêmement lumineux ou qu'on regarde le soleil, ça c'est connu, mais quand on regarde le soleil ou qu'on est dans un, par exemple, au bord d'un lac, là, il faut des lunettes de soleil parce que c'est la rétine qui peut s'abîmer.
Hein? Noté.
Voilà. Et enfin, la dernière chose... N'oubliez pas, c'est pas parce que c'est super romantique au bord de l'eau que vous êtes avec votre chum ou votre blonde du moment. Mais n'oubliez pas qu'il faut quand même se protéger. Par pitié, le nombre d'infections sexuellement transmissibles augmente après chaque été.
C'est-tu vrai?
Ben oui, c'est vrai. C'est vrai, voilà.
Donc, parce que... explique-moi ça. Il y a des maladies... transmises sexuellement qui augmentent en fréquence et en nombre à la suite d'un été.
C'est ça.
Parce que les gens sont plus...
Ils sont plus libres, c'est super. Imagine, t'as rencontré quelqu'un et une balade au bord de l'eau. Une balade la nuit au bord de la plage. C'est pas merveilleux ça? C'est romantique. Et évidemment, c'est pas facile de penser à se protéger pendant ce moment-là. Ça peut casser le romantisme. D'autant plus que c'est les vacances, on fait ce qu'on veut pendant les vacances.
Donc, il y a une témérité sur le plan sexuel des gens qui est plus accrue pendant l'été.
Ben voilà, c'est le mot. Une témérité, c'est parfait. C'est exactement ça.
Bien noté, François. Merci infiniment pour ces bons conseils.
I'm gonna be around my vegetables. I'm gonna chow down my vegetables. Love you most of all, my favorite vegetable. If you brought a big brown bag of them home, I'd jump up and down and hope you'd toss me a carrot. I'm gonna keep well my vegetables, car off and sell my vegetables. I love favorite vegetable.
Il y a peu de formations musicales, je trouve, qui font autant été que la sonorité des Beach Boys. Et ici, on vient d'entendre le chanteur des Beach Boys, Brian Wilson, en fait, un des chanteurs, mais le leader de la formation Les Beach Boys. Et c'est tiré d'un de mes albums fétiches, l'album Smile, qui est paru il y a quelques années seulement. Et c'était la pièce Vegetables.
Oh!
Super. Quel propos quand même.
Et c'est un concept phénoménal, Jean-Sébastien, tu te dépasses à chaque fois. Vegetables en français qui veut dire légumes, parce que oui, on va parler véganisme, végétalisme et tout ce qui s'y apparente avec Sophie Lecomte. Bonjour.
Absolument, bonjour.
Comment ça va?
Ça va super bien, je suis très heureuse d'être ici.
Je suis très heureuse aussi aujourd'hui. Parce que j'ai fait un tournant vegan, comme on le dit, dans les trois dernières années. Je me considère encore un peu flexi, comme on appelle, mm-hmm. parce que socialement, ça peut être difficile Absolument. De garder nos habitudes alimentaires. Mm-hmm. En société, c'est difficile. Mais aujourd'hui, tu es ici pour nous clarifier tout ça et nous introduire et nous aider aussi à mieux manger.
Absolument. Donc, une chronique de trois qui va traiter sur le véganisme.
Tome 1,
un petit peu d'introduction. Moi, ça fait déjà un bon moment quand même que je suis végane. Et mes études en philosophie m'ont aidé à éclaircir tout ça au niveau théorique, éthique. Et comme ça fait vraiment longtemps, j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui sont véganes, je me disais comment aborder le véganisme. J'ai donc demandé à des gens autour de moi s'il y avait une chronique à entendre à la radio sur le véganisme, qu'est-ce qu'ils voudraient entendre? Donc, mais avant ça, ça serait quand même bien d'éclaircir un peu les sujets puis les concepts parce que ça peut être un peu mêlant. Des fois, on va entendre des gens qui vont dire qu'ils sont végétariens, mais qu'ils mangent du poisson. Ça peut être un peu compliqué. Des fois, quand on dit qu'on est végane au restaurant, ils nous offrent les options avec le fromage ou avec les poissons.
Oui, donc, et végétarisme, être végétarien,
oui.
végétalien...
Et vegan.
Et moi, je pensais que végétalien et vegan, c'était la même chose.
Ben, en fait, c'était ma question. Qu'est-ce que c'était comme selon vous, le véganisme? En anglais, c'est ce qui nous amène à être un peu confus. C'est que le terme vegan est accepté dans la langue française depuis quand même, c'est assez récent. Mm-hmm. Donc, le végétalisme, c'est une alimentation végétale. À ce moment-là, on exclut tous les produits d'origine animale dans notre alimentation, que ce soit même au niveau des alcools qui peuvent avoir certaines traces de produits animaux. Par contre, le véganisme, lui, considère tous les aspects de la consommation. C'est un mouvement qui implique de refuser tous les produits ou les activités qui impliquent l'exploitation des animaux. En ce sens-là, dans le fond, manger des produits d'origine animale, mais aussi les cosmétiques sont testés sur les animaux, le cuir, la laine, tout ce qui
les produits ménagers à la maison.
Les produits ménagers, exactement. Et donc, ça va plus loin que la simple consommation individuelle chez soi, dans son salon. C'est un mouvement qui est politique et social. Ça ne s'arrête pas juste à nous. C'est un mouvement qui vise les changements sociaux et je suis très fière de dire qu'au Québec, en français, parce que ça a été quand même assez long que la communauté francophone mondiale s'est intéressée à ces questions-là au niveau philosophique, éthique. Et à Montréal, au Québec, on a plein de chercheurs, de personnes hyper inspirantes qui font partie de ce mouvement-là et qui changent les choses à tous les jours, souvent de façon bénévole et qui sont très, très impliqués dans la situation. Donc, je vous dirais juste quelques livres, peut-être, pour vous introduire au véganisme, si ça vous intéresse. D'abord, Élise Desaulniers, qui est quand même pas mal connue au Québec maintenant. Son livre « Je mange avec ma tête » concerne l'éthique alimentaire. Donc, tout aussi au niveau de l'environnement, ce que ça implique. Ensuite, il y aurait aussi son livre « Vache à lait » qui questionne les pratiques de l'industrie laitière. Oui. Mais au Québec, ici, parce que on a aussi un rapport particulier avec les produits laitiers au Québec. On a une grosse industrie laitière. Donc, elle s'intéresse à ça. Ses livres sont hyper bien écrits, très, très clairs. Ça se lit très, très bien. Ensuite, il y a Martin Gibert, qui est un philosophe, chercheur, qui a écrit « Voir son steak comme un animal mort », qui traite un peu de la psychologie, notre rapport aux animaux et notre rapport à la consommation d'aliments.
Et ce qui est absolument, vraiment pas loin de la vérité.
Et, absolument.
Comme bien dans sûr. C'est exactement oui. ça.
Exactement. Et encore une fois, super bien écrit. Il a été dans les palmarès de vente des coups de cœur, très, très, très accessible. Ensuite, Valérie Giroux et Renan Larue qui ont écrit dans la collection Que sais-je, donc un petit livre, bonne introduction, qui s'appelle simplement Le véganisme. Donc, avec ça, là, je vous dis, là, vous allez avoir comme des très, très bonnes bases pour démêler tout ça dans votre tête. Donc, on peut dire que tous les véganes sont végétaliens, mais les végétaliens ne sont pas tous véganes. Donc, si on fait le choix seulement pour, par exemple, sa santé, puis on décide de consommer des produits d'origine végétale, mais qu'on ne questionne pas trop nos autres comportements, on peut se dire végétalien. Par contre, à mes yeux, et selon plusieurs personnes, ce n'est pas un mouvement homogène, on s'entend, il y a plusieurs points de vue, mais le véganisme concerne tout ce qui est, tout ce qui est habitude de consommation.
Habitude de vie autre que la nourriture.
Exactement, exactement. Donc, tout ce qui est exploitation animale, mais aussi on peut se questionner sur l'environnement aussi, notre impact sur l'environnement, mm-hmm. notre impact sur les autres humains aussi. Parce que c'est bien beau de dire « Ah, moi, je ne consomme que des produits d'origine végétale. » Par contre, certains produits peuvent avoir un impact sur d'autres êtres humains. Et je pense, la plupart des véganes que je connais sont très, très sensibles aussi à toute forme de souffrance et d'exploitation. Donc, souvent...
Qu'elles soient humaines ou
animales.
Oui,
absolument, exactement. Oui, oui. Souvent,
Oui, parce que parfois, je trouve dommage, parce que c'est du militantisme quand même. Et
absolument.
C'est un système de valeurs que je salue fortement. Par contre, je ne crois pas que de combattre quelque chose par la colère soit souvent gagnant. Et des fois, et dans ce mouvement-là, et dans plein d'autres mouvements, des fois, traiter les autres humains de stupides, d'inconscients pour faire valoir... Les animaux, je ne pense pas que ce soit une formule gagnante. Je pense qu'il faut penser à toute forme de vie. Ça, c'est une opinion très personnelle. Mais je trouve ça super intéressant de t'entendre le nommer. Je ne l'entends pas souvent, ça.
Mais je dirais que moi, je ne condamne pas. Toutes les formes de militantisme sont valides. En ce sens que moi, au début de mon véganisme, comme j'appelle, j'avais beaucoup de colère et de frustration parce que c'est un peu comme si on ouvre les yeux sur une réalité.
Mais c'est justifié.
Et
ben
on se bute, dans le fond, à certaines réticences. Ouais. En ce sens-là, le livre de Martin Gibert, super intéressant parce que justement, c'est au niveau de notre psychologie, on est humain, on a des vulnérabilités, c'est pas toujours facile.
Et des habitudes qui datent de des siècles et des millénaires.
Et moi, je vous dis, je suis chanceuse, je suis excessivement chanceuse, je me trouve près de Montréal, je suis entourée de la communauté végane, mais à l'extérieur, ça peut être un peu plus complexe. Par contre, les offres sont de plus en plus disponibles. Les informations sont très, très accessibles. Il y a des pages Facebook riches qui donnent des idées de recettes, qui donnent des suggestions, qui offrent même du soutien psychologique parce que c'est quelque chose qui est assez, comme tu l'as mentionné au début, ça peut être difficile socialement. Je voulais vous en parler un peu plus tard, mais il y a le livre de Élise Desaunier qui a collaboré avec d'autres personnes qui s'appelle « Le défi vegan 21 jours ». Et il y a plein d'astuces dans ce livre-là, en fait. Des astuces, il y a des recettes, il y a des trucs sur la santé et l'alimentation, mais des astuces. Et quand le défi commence, on peut prendre le livre seul et le consulter et faire notre propre défi, mais il y a des défis qui partent régulièrement qui vont, ils vont permettre aux gens d'avoir des courriels à tous les jours, des outils, des gens qui vont pouvoir répondre à leurs questions. Donc, c'est vraiment une communauté qui se mobilise. Et en ce sens-là, ce mouvement-là, je le trouve beau et impressionnant. Parce que oui, il y aura toujours des gens peut-être qui vont... Il y a toujours des gens qui vont...
François est tellement populaire.
Je suis désolée, vraiment pour toi, je l'avais
pas répondre. Pas de problème. C'est ça, donc... évidemment, des fois, on entend toujours des côtés peut-être dans les médias qui vont peut-être être moins intéressants, justement, des fois, des formes de violence même qui vont être utilisées. Mais c'est aussi un peu de la propagande parce que le mouvement vegan... peut arriver à choquer certaines personnes aussi, hein, les industries, les lobbies.
Chaque position est polarisée.
Exactement.
Et ça fait pas exception. Quand on commence ce défi-là, parce que défi 21 jours, c'est intéressant, on connaît bien qu'il faut 3 semaines pour changer une habitude, quelle qu'elle soit, donc on choisit pas le 21 jours pour rien. Mais qu'est-ce qu'on doit savoir tout d'abord? Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est « Ah, oh, mais ton alimentation, elle ne sera pas complète. »
Ah oui, ça, c'est... Écoutez, moi, je ne
tu vas manquer de protéines.
Oui. Moi, je peux vous dire d'abord, je ne suis pas nutritionniste, mais je m'intéresse à la question. Parce que après tout, oui, le véganisme concerne toutes les formes d'aliments, toutes les formes de consommation, mais on mange 3 fois par jour, normalement, deux fois plus. Mais donc, c'est le sujet le plus central parce que, selon moi, ce qu'on fait avec notre argent... quelle compagnie, qu'est-ce qu'on va acheter. Donc, je valorise beaucoup les produits québécois. Je pourrais vous en parler ultérieurement aussi.
Manger local, oui, fait partie
manger
également.
Manger local et toutes les options véganes qui existent ici maintenant ou qui sont assez proches de nous, je pourrais vous en parler. Mais en ce sens-là, je vous dirais, il y a des ressources très intéressantes qui parlent justement de la santé dans une alimentation végane. Ce que moi, je peux vous dire que je connais, ce qui est reconnu, c'est qu'il y a Dr. Gregor, qui est un docteur en nutrition ici à Montréal. Il y a Anne-Marie Roy, qui est une docteure en nutrition aussi. Il y a Tao Bui, qui est une nutritionniste qui nous parle de la santé et ce serait la meilleure forme d'alimentation pour répondre à nos besoins. Tant qu'on mange équilibré, qu'on varie notre alimentation, il n'y a aucun danger à être végane, bien au contraire. Souvent, la clinique de Anne-Marie Roy s'appelle la clinique renversante parce qu'on peut renverser des petits diagnostics, par exemple un début de diabète, de haute pression, de cholestérol, en suivant un régime végane. Donc, je pourrais peut-être transférer certaines ressources que les gens pourront consulter facilement en ligne. Et s'ils s'inquiètent, il y a des...
Il ne faut pas oublier aussi que le cancer du côlon est quand même dû à une trop grande quantité de viande grillé.
Absolument.
Il y a beaucoup de liens qu'on commence à faire dans la science qui démontrent certains types de pathologies, de maladies, de symptômes qui sont associés, dans le fond, qui seraient associés à un régime omnivore.
Mais on dit qu'on est ce que l'on mange de toute façon. Et là, il va nous rester une panoplie de choses à nommer. Est-ce que vegan, ça veut dire être santé? Est-ce qu'on peut manger des desserts quand on est vegan? Et une foule de choses. Mais tu auras un tome 2, Sophie, et j'ai très, très hâte de t'entendre déjà. Merci beaucoup d'être venue.
Un grand plaisir. Et vous comprendrez que je suis une... foodie fervente de terrasse, de sortie, je pourrais vous donner une foule de conseils. Vous allez voir que c'est savoureux, merveilleux, puis vous allez faire des super belles découvertes. Puis je vous mets au défi d'essayer un produit vegan, un petit resto vegan ou un petit quelque chose cette semaine. On se reparle la semaine prochaine. Je serai heureuse de vous entendre m'en parler.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Vous écoutez Aime l'été.
Voilà, Canalem, vous écoutez Aime l'été. Et nous sommes toujours avec Emmanuel Robitaille et François. Les journées mondiales et internationales de la semaine, et on termine en beauté en parlant de musique d'été avec Daniel Lachance.
Burning up.
On vient d'entendre Christina Aguilera avec Red Hot Kind of Love, tellement estivale et ma chanteuse préférée, ça y est, je l'ai dit. ma chanteuse préférée encore vivante. Parce alors, que feu Whitney Houston.
Ah ben oui, bien sûr. Oui.
Non, on va se le dire, mais oui, voilà.
Alors Emmanuel.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ces journées nationales, mondiales et internationales de la semaine?
Mais tu sais qu'il ne
raconte.
Se... Ben oui, il ne se passe pas une semaine sans que presque chaque jour soit, je dirais, une célébration pour quelque chose dans le monde. Mais je te dirais que l'été, c'est moins présent, mais ce n'est pas le cas de cette semaine. On a une semaine chargée en journée mondiale et internationale, à commencer par demain, qui commence par la Journée internationale pour la conservation de l'écosystème des mangroves. Je dis tout ça comme il faut. Moi, je suis un peu en anglais. Je me sens bilingual aujourd'hui.
Ça veut dire quoi?
Et c'est ça. J'y arrive.
Ah.
Les mangroves, ce sont des forêts impénétrables à base de palétuviers qui poussent dans la vase des littoraux tropicaux. Et c'est pas pour rien qu'on veut les protéger, considérant qu'il s'agit d'un des écosystèmes les plus bioproductifs du monde. Entre autres, par l'absorption du carbone, mais c'est loin d'être tout. La liste des bienfaits des mangroves pour la planète, elle est très longue. Ils contribuent à améliorer la sécurité alimentaire, ils fournissent des ressources pour la pêche, les produits forestiers, ils offrent une protection contre les tempêtes, les tsunamis, la montée du niveau de la mer, ils préviennent l'érosion du littoral, ils régulent la qualité des eaux côtières, ils procurent un habitat aux espèces marines menacées. On estime que leur fonction et leur service écologique s'élèvent à 1,6 milliard de dollars par année. C'est l'UNESCO qui a nommé le 26 juillet comme journée internationale pour la protection de cet écosystème après le constat suivant. Jusqu'à 67 % des mangroves ont déjà été détruites et la qualité totale de celles-ci non protégées pourrait disparaître au cours des 100 prochaines années. Cette journée internationale-là mais pour la conservation de l'écosystème des mangroves.
C'était détruit comment? En fait, c'est les constructions, c'est quoi?
C'est pas mal l'humain dans toute sa splendeur.
Ce sont des baies qu'on a fait là-dedans,
J'ai pas les détails, mais effectivement, coupe, c'est la construction, c'est les usines, l'air, c'est tout. Mais j'ai pas les détails, donc je veux pas dire des choses qui sont fausses. Ta question est très pertinente, mais on se comprend qu'il y a moult façons de détruire un écosystème. Maintenant, on peut y aller de diverses façons, oui. Alors, comme je disais, cette journée internationale pour la conservation de l'écosystème des mangroves est l'occasion pour chacun de réaffirmer son engagement envers le programme de développement durable à l'horizon 2030 et l'accord de Paris sur les changements climatiques. 26 juillet, encore et toujours demain, journée mondiale de la jeunesse.
Très bien.
Non, mais j'étais comme « Oh, wow! Moi, jeunes, j'adore! Oui. » C'est depuis 1984 qu'on souligne les Journées mondiales de la jeunesse. C'est organisé non pas par l'ONU ou une organisation mondiale de la sorte, mais bien par l'Église catholique. C'est une initiative qui revient à Jean-Paul II et c'est axé sur la jeunesse croyante pour leur offrir un moment où ils peuvent se rassembler pour prier, se rencontrer, célébrer ensemble et témoigner de leur foi. D'ailleurs, pour la 33e édition, le pape François a écrit un texte dédié aux jeunes catholiques, un texte que l'on peut lire sur le site web du Vatican lui-même au vatican.va. Aucun rassemblement n'est prévu cette année pour l'événement. Le prochain rassemblement mondial est prévu pour l'an prochain, en 2019, au Panama, en Amérique centrale, sous le thème de la béatitude.
Ce sont les JMJ.
Tu n'en attendais pas, hein?
Ah non?
Hey, moi non plus. Moi non plus! 27 juillet maintenant, journée mondiale des administrateurs de système. Je parle à Jean-Sébastien Régis, je crois que tu vas l'aimer, celle-là. Non, mais c'est vrai.
Je suis tout oui.
Oui, t'es comme un pain, il est tout fier. Alors, la Journée mondiale des administrateurs de système, qui est célébrée tous les derniers vendredis du mois de juillet et qui en est à sa 19e édition, son 19e anniversaire cette année. Mais de quoi on parle?
Ben c'est tout jeune, en fait.
Au juste.
19 ans.
Ben oui, quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est un administrateur, de système, Ted Kekatos, bien sûr, qu'on doit cette initiative-là, lui soutenant que les administrateurs de systèmes se voient ignorés et non respectés 364 jours par année et qu'ils méritent enfin un peu d'appréciation et de reconnaissance. Mais c'est quoi un administrateur de système? Eh bien, c'est le super-héros, rien de moins, responsable d'entretenir, de configurer et de s'assurer d'une opérationnalisation fiable des systèmes informatiques, surtout pour les réseaux multi-utilisateurs comme pour les serveurs, et on entend ici nécessairement dans toute bonne compagnie. Donc, effectivement, ils assurent la performance, les ressources et la sécurité informatique des ordinateurs, et c'est de lui que dépend tout le fonctionnement, et c'est aussi de lui que l'on dépend, en cas de plantage généralisé. Donc, on remercie cet homme ou cette femme dans votre milieu qui s'assure que vous puissiez travailler comme si de rien n'était, alors que la menace règne à tout moment. C'est du sérieux. Jean-Sébastien, tu es comme notre administrateur de système ici à la radio. C'est pourquoi
oui, nous avons un vrai administrateur de système qui nous dépanne lorsqu'on a des pannes, disons-le ainsi, qui nous dépanne lorsqu'on a des pannes. Donc,
t'as tellement de vocabulaire!
c'est approprié.
Alors, on souligne Hans Dominique, qui est notre administrateur système, mais on lui gonflera une petite balloune à l'occasion de cette
vendredi, ce sera l'occasion pour Hans d'avoir sa journée. Eh bien, vraiment, puis c'est vrai qu'on les remercie pas assez, puis c'est vrai qu'ils nous sauvent donc bien. Ensuite, ce 28 juillet, journée mondiale contre l'hépatite, initiée par l'Organisation mondiale de la santé, on s'en doute, et c'est destiné à faire connaître les différentes formes d'hépatite au grand public et fournir les axes d'action futurs. Cette année, l'OMS a choisi le thème « Agir contre l'hépatite, dépister, traiter ». On parle de sensibilisation, de prévention et de traitement, bien sûr. Comment reconnaître les hépatites? Comment elles se transmettent? Qui est-ce qui est exposé aux hépatites? C'est une belle occasion également pour démystifier le tout. Et c'est en Mongolie que l'OMS assure la tenue de plusieurs manifestations pour l'événement. C'est 325 millions de personnes qui sont touchées par les hépatites dans le monde. Et comme c'est asymptomatique, les hépatites sont souvent non détectées et donc non traitées. On continue les actions.
Du coup.
Et reste transmissible, effectivement, tout à fait. Donc, on continue les actions pour atteindre l'objectif de l'élimination de cette infection chronique d'ici 2030. On parle maintenant, et là j'ai encore tellement de journées mondiales, et là Jean-Sébastien me dit, il te reste une minute Emmanuel. Et là je me questionne, là j'ai vraiment un questionnement interne, suis-je rebelle? Ne suis-je pas rebelle? Quelle est la question?
Non, pas trop, t'es pas trop rebelle.
C'est pas... Bon, OK, si tu le dis. Alors, 30 juillet, journée internationale de l'amitié proclamée en 2011 par l'ONU, qui promeut l'amitié entre individus, une première chose, mais également entre les peuples, les pays, les cultures, pour inspirer des efforts de paix entre les différentes communautés du monde. Et de manière cohérente, ça soutient les buts et les objectifs de la déclaration et du programme d'action sur une culture de la paix. Cohérence, oui. C'est la solidarité humaine que l'ONU tente de faire face aux grandes problématiques d'envergure mondiale comme la pauvreté, la violence, les violations des droits de l'homme. Tendre la main à notre entourage en situation de crise, même envers ceux qui sortent de notre cercle habituel, c'est là la clé. Et on nous invite, lors de cette journée-là, pas seulement en tant que personne, mais aussi en tant que gouvernement, à organiser des événements qui contribuent au dialogue, à la compréhension mutuelle et à la réconciliation. Et sur ce joli mot qu'est conciliation, réconciliation, je vais taire la rebelle en moi. Et c'était les Journées mondiales et internationales de la semaine!
Sun. friends.
Then we made our true love vow.
Wonder what she is doing now.
Summer dreams ripped at seams.
But
those summer
nights. A Summer Night du mythique film Grease, interprété par John Travolta et Olivia Newton-John. Moi qui aime tellement cette chanson. Daniel Lachance, tu viens nous parler musique, tu choisis cet extrait et tu nous annonces en primeur que tu ne l'aimes pas.
J'ai dit ça hors d'onde, par exemple.
Ah, mais moi, j'ai décidé que je te stoule.
Non, mais c'était...
Je te dénonce.
Bon, mon micro est à l'envers. Ça en blesse.
C'est en fin de journée.
Je parlais à reculons, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Il aime tellement pas ça qu'il veut même pas en parler.
Non, mais... Effectivement, non. Aujourd'hui, je la trouve belle, cette chanson-là, quand même.
Avec du recul.
Mais juste aujourd'hui.
Pourquoi? Mais
non,
c'est
non,
pourquoi?
Non, c'est une joke. Non, mais j'avais à l'époque à peu près, 24 ans, je pense, quand ça a sorti. Le film, je parle, parce que la pièce de théâtre avait sorti avant. Hein. Grease a sorti au début des années 70, je pense. Et on fait un film en 1978. Et quand cette chanson-là est sortie, moi, à l'époque, j'écoutais des trucs plus... du rock progressif, des trucs qui brassent un peu plus. Donc ça, je trouvais ça un peu...
mièvre.
C'était une chanson pour mes petites sœurs, là, qui étaient encore toutes jeunes. Fait que, oui. Aujourd'hui, je trouve ça quand même joli, oui. C'est une belle chanson d'été, voilà.
Et c'est ça, on est dans le thème des chansons d'été. Et on le sait que cette chanson-là, dans le film, souligne l'histoire d'amour qui a duré
un été. Voilà, et donc c'est absolument dans le thème, et c'est pour ça un peu que je l'avais choisi, bon, un peu à la suggestion de Jean-Sébastien aussi.
Je
il
ne
m'a pas forcé la main, mais il disait ça serait le fun qu'à un moment donné, tu fasses jouer Summer Nights. Alors voilà, même si je l'aime pas, tu vois, quand je suis comme bon pour faire plaisir aux autres. Oui, oui, oui.
Non, mais mettons les auditeurs en contexte. Là, on disait quelle chanson, Ordon, signifie l'été pour nous. Et pour moi, ça, je trouve, ça fait chanson d'été, avec les images du film qui sont
absolument,
associées.
Absolument, absolument. Quand on regarde le clip qui vient avec ça, ça décrit exactement ce que tu viens de dire.
Moi, je l'adore.
Oui, et le point que je voulais apporter, dans le fond, c'est qu'on avait discuté depuis le début de cette chronique-là. Qu'est-ce qui fait une chanson d'été? Est-ce que c'est le texte? Est-ce que c'est le contexte dans lequel on l'a vu ou on l'a entendu? Est-ce que c'est la musique elle-même? Et puis là, ce que je voulais dire, dans le fond, c'est que cette chanson-là, la musique elle-même, c'est peut-être pas nécessairement un thème de chanson d'été. Mm-hmm. Parce qu'on a entendu ce thème-là dans plein d'autres chansons avant. Et je suis certain que vous l'avez déjà remarqué aussi, quand on entend le début de la chanson « Summer Nights », ça nous fait penser à d'autres chansons qui avaient paru avant. Il y en a quelques extraits, je ne sais pas, on devrait peut-être écouter. Le premier, je dirais, ça serait Hang On Sloopy.
C'est effrayant!
C'est impressionnant!
Ça ressemble quand même.
Je sursaute. Hey, j'avais jamais remarqué.
C'est impressionnant, hein?
Je suis outré.
C'est pas du plagiat, mais
ben là, voyons.
C'est une inspiration.
C'est une inspiration
pas
quand même.
Mal.
Moi, je vais dans le plagiat pur et dur.
Et ça, ça date. Et même, ça, cette chanson-là, ça date de 1965, cette version-là. Mais il y avait eu une autre version par un autre groupe en 1964 qui s'appelait presque le même titre. Là. Ça s'appelait My Girl Sloopy. Et l'autre version après ça, en 65, Hang On Sloopy. Mais tout ça pour dire qu'il y a des thèmes comme ça qui, moi, pour moi, ça, c'était pas nécessairement une chanson d'été. Mmh. C'était une chanson...
Effectivement,
t'as raison. Une
chanson de l'année.
Chanson, il y a des années 60, voilà. Mais après ça, ça a été repris avec un contexte de chanson d'été. Et quand qu'on l'écoute aujourd'hui, ben ça devient une chanson d'été. Il y en a d'autres qui ressemblaient à ça aussi. Je pense que vous en aviez trouvé d'autres.
Mais tu me parlais, toi, de...
Ouais,
One Direction, encore une fois, serait teinté par ça.
Pas mal, la chanson.
On l'écoute.
Oui, on va écouter un temps.
Ah, mon Dieu, je suis doublement outré. Pas de bon sens. You're insecure.
don't know what for.
Et, j'ai entendu cette chanson-là des dizaines de fois et je n'ai jamais fait le lien. Vivais-je dans le déni?
Moi, je fais le lien. Ma petite fille écoute beaucoup ce vidéoclip-là qui est très sympathique. Puis à toutes les fois que ça part, moi, c'est la chanson de Grease que j'ai dans la tête.
Voilà.
Fait que je me mets à chanter une chanson pendant que c'est l'autre qui joue dans le salon. Fait que c'est...
Et ça aussi, c'est un clip qui est vraiment été, là. Pas si
c'est très
hop
la vie, c'est très...
Le vidéoclip, c'est vraiment sur le bord de la mer, aussi sur le bord d'une plage, et ça fait très, très été. Mais là, la question que je me posais, c'est... Les premières fois qu'on a entendu ce thème-là avec Hang On Sloopy et tout ça, c'était pas vraiment une chanson d'été. À partir de Summer Nights, là, ça devient une chanson d'été. Et là, One Direction reprend le même thème et il refait une chanson d'été. Parce que là, pour eux, c'est devenu une chanson d'été.
Mais il y a vraiment une question qui se pose ici. Parce que dans le monde artistique, il y a des momentum. Quand tu es chanteur ou tu as un groupe, idéalement, tu suis un petit peu le moment où tu dois être, mais avoir une chanson d'été, c'est un momentum pour un artiste.
Oui, sûrement.
De choisir un hit qui va être le summer hit, pour être en bon français, c'est quelque chose qui est important. Et je me dis à quel point, comme on vient de le voir, le plagiat ou l'imitation poussée, on va le dire comme ça.
L'inspiration
ou imitation poussée. T'as raison, mais l'imitation, inspiration poussée serait pas davantage présente dans des hits d'été parce que c'est tellement une formule gagnante qu'on aurait plus tendance à le faire. Et on a un cas qu'on a parlé il y a quelques années qui est un exemple flagrant de ça.
Là, je m'excuse, mais j'ai à peu près 8 cas sur ma feuille. Fait que tu m'as dit que tu
faisais tellement précis. J'étais tellement prête.
Pas la version de Olivia Elton John.
Non. J'ai écrit. C'est parce que je dois faire meilleur. Elle est tellement meilleur culpa. Hier, j'ai envoyé les chansons à la régie pour que tout le monde soit au même diapason pour la. L'émission d'aujourd'hui, j'ai marqué Summer Night interprété par Olivia Newton-John et Elton John.
Et voilà.
Oh, il était John Travolta, ce qui était vraiment pas
sacrilège.
Effectivement. Mais on sera... c'est Blurred Lines qui avait été sorti avec Pharrell Williams. Et vas-y.
C'était 2015, ça, je pense.
C'est pas
2014.
Oui, quelque chose de même. Et Marvin Gaye, du moins l'équipe héritière qui s'occupe du matériel de Marvin Gaye, poursuit Pharrell Williams et Robin Thicke. Écoutez bien. C'est la chanson « I Got to Give It Up » de Marvin Gaye. Les ressemblances sont percutantes.
C'est impressionnant,
Et « Blurred Lines », c'était le hit de l'été.
Absolument.
Il faudra aller revérifier l'année, mais je crois...
Je pense que c'est 2014, mais je ne suis pas
quelque
certain.
Quelque chose comme ça. Donc, à quelque part, je me dis, c'est tellement gagnant, mais ce n'est pas les seuls. « All About That Bass ».
Ah, ben oui.
De Meghan Trainor. On est très summer fun. T'es bien. I'm all about that bass, about that bass, 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 bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it, shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase. And all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on, now make it stop. If you got... Qu'est-ce qu'il y a d'été là-dedans? Toutes?
Oui, pas mal. Le son, en général, oui.
Ben, écoutez, il y a Coyotes, Happy Mode, qui est sorti en 2006, qui était vraiment pas loin de ça.
Un autre...
Sincèrement.
Une autre inspiration très...
On attend après Jean-Sébastien,
cherche,
mais... mais c'est... Non, mais c'était... Puis là, on se rappelle qu'on parle de formule gagnante, à savoir, est-ce que les artistes s'inspirent davantage pour être sûrs d'avoir une formule gagnante?
Peut-être que pour des chansons d'été, effectivement, on se casse moins la tête puis on va chercher une base qui a déjà fait ses preuves et on travaille à partir de ça.
En fait, c'est la base, le rythmique.
Absolument, oui.
Hello, everybody. Welcome back. This song is KYT 2006, y'all. My girl Shinji, my man Jomin, and me, this is Becca right here. That's right.
On prend des extraits. C'est probablement qu'effectivement, quand c'est une chanson d'été, on part gagnant en se basant sur quelque chose qui a déjà fait un succès. Mm. Et on le transforme un peu. Mais je ne suis pas sûr que c'est seulement pour les chansons d'été qu'on fait ça. Mais étant donné qu'une chanson d'été, c'est plus léger, je pense qu'on a plus tendance à aller dans cette direction-là. Ne pas se casser la tête et se dire on a déjà 50% du travail qui est déjà fait. On le modifie un peu. Succès assuré. Ça a l'air à marcher, habituellement. Je pense que ça fonctionne assez souvent.
Ce qui conclut cette chronique déjà, musicale avec Daniel Lachance. Merci, Daniel, de toujours nous pousser à réfléchir à des choses qu'on n'aurait jamais pensé autrement dans un autre contexte. Parce que, sincèrement, cette réflexion-là, j'avais jamais pensé l'avoir, mais je me suis dit, ma foi, est-ce que les chansons d'été seraient assez enivrantes pour qu'on aille jusque-là?
Oui, probablement. Puis quand on ne se casse pas la tête, on veut juste s'amuser. C'est une bonne chanson d'été, on ne veut pas chercher plus loin.
Merci encore, Daniel, de nous amener toujours un peu plus loin dans le monde musical. Et c'est déjà presque tout pour nous pour aujourd'hui. Merci François, merci Jean-Sébastien Laliberté à la régie, merci Clotilde Seille à la réalisation.
Merci Emmanuel.
Merci à toi et on se retrouve demain midi.